بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. On a lu ce soir le 22e juz. Et dans les versets, les premiers versets du 22e juz, Allah Azza wa Jal s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rappelant à ses épouses quel rang Allah leur a accordé et quelles sont les exigences par rapport à leur niveau de pratique et quelle est la récompense qu'Allah leur a réservée dans le Akhira. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, et qui fait le bien. Donc on retient déjà que le statut ne fixe pas la valeur de la personne. C'est pas parce que ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'automatiquement la bonne nouvelle du paradis est qu'elles n'ont rien à faire. Allah Rabbul Izzah rappelle celles qui se soumettent entièrement à Allah et à son messager et qui fait le bien. En plus d'avoir le statut d'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur est demandé d'accomplir les bonnes actions comme tout le monde. Parce qu'aucun lien, que ce soit de sang ou de mariage, ne sauvera une personne de l'enfer. Le prophète alayhi salat wa sallam avait dit à propos de sa fille Fatima radiallahu anha, si ma fille Fatima devait accomplir un péché, il avait cité l'exemple du vol, ben la punition serait effective. Vous voulez faire comprendre que c'est pas parce que c'est ma fille que le châtiment, qu'elle est épargnée, qu'elle est protégée du châtiment. Allah Rabbul Izzah ne regarde pas les origines, les attachements, les liens de sang, aucunement. Allah regarde la foi et les bonnes œuvres. Donc, l'ordre vient d'Allah Azza wa Jal pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nu'tiha ajraha marratayn, donc, et qui fait le bien, nous lui accorderons deux fois sa récompense, le double de la récompense. Wa a'tadna laha rizqan karima, et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ibn Kathir rahimahullah commente ces versets: wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuluhu ay tuti'u Allah wa rasulahu wa tastajib. C'est-à-dire qu'elle obéit aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelle est cette double récompense? Ay fil jannah, la récompense de le paradis. Fa innahunna fi manazil rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le rang des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le paradis sera auprès de qui? Auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la récompense suprême. Fi a'la 'illiyyin, le plus haut degré du paradis où va rester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawqa manazil jami'il khala'iq, au-dessus du rang de n'importe quelle autre créature. Fil wasila, donc le degré le plus élevé qui s'appelle al-wasila, ce qui est le plus proche du trône d'Allah Azza wa Jal. C'est le dua qu'on demande à Ati Muhammadin al-Wasila wal-Fadila. Le Prophète aura ce plus haut rang et ses épouses, les épouses du Prophète sallam, seront auprès de notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devrons avoir la muhabba pour toutes les épouses du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les époques où elles ont vécu, quel que soit le nombre d'années qu'elles étaient auprès du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la première Khadija radiallahu anha jusqu'à la plus jeune qui était Aïcha radiallahu anha. Et puis il y a quelques conseils à l'attention des époux du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est valable pour n'importe quelle femme de cette umma. Il y a le verset « Fala takhda'na bil qawli ». On a sélectionné quelques passages, parce que d'autres passages risquent d'être un peu compliqués à comprendre. « Fala takhda'na bil qawli ». Si vous êtes... Non, c'est pas ça. « Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage ». Ça veut dire quoi, ne pas être trop complaisant dans le langage? Ibn Kathir dit « Hada adab », ce sont des règles de respect d'éthique. Amarallahu biha nisa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne des consignes aux époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des règles de la façon de se comporter. Wa nisa'ul umma tatba'uha fi dhalik. Et les femmes de la umma respectent les mêmes engagements. c'est-à-dire que des conseils pour les épouses du prophète, mais qui est valable pour n'importe quel mu'mina et mu'minat. Et quels sont ces conseils à propos du langage, hein, de ne soyez pas trop complaisant de votre langage. Ibn Kathir, rahmallah, explique que tarqiqul kalami idha khatabna ar-rijal, dans la façon de répondre aux questions ou aux sollicitations d'une personne étrangère, ou de parler ou de communiquer, Allah leur demande d'adopter un ton, comment on pourrait dire, un ton réservé, une façon de parler qui est réservée. Les Kathir commentent encore, ay la tukhatibul mar'atul ajanib kama tukhatibu zawjaha. Lorsqu'une femme parle à son mari, elle a une façon de parler, une façon où il y a de la muhabba, de l'amitié, de l'attachement qui se manifeste, mais lorsqu'elle parle à un homme étranger, elle ne doit pas avoir la même façon de parler. Et c'est une règle qui peut être un peu difficile à comprendre. On est dans une société qui est tellement ouverte, on peut se dire que oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se radicaliser, on pourrait dire, dans les discours. Mais je vous dis très clairement, vous avez une femme qui vous parle avec un ton mielleux, d'accord, et qui, voilà, il y a des fois où le cœur de l'homme peut pencher, peut pas céder, mais peut être perturbé par une voix qui vient d'une femme, et on sent que dans cette voix, il y a plein de messages qu'on peut véhiculer. Le message à retenir, c'est que lorsqu'une femme parle à un homme, quand c'est une condition, quand c'est une situation nécessaire, il faut être bref et assez sobre dans la façon de parler. Quand elle parle à son mari, c'est différent, mais quand elle parle à un homme étranger, même si c'est au téléphone, je pense que vous avez compris de quoi, où je veux en venir. D'accord ? Il faut qu'elle soit sérieuse dans sa façon de parler. Il n'y a pas à plaisanter, il n'y a pas à adopter un ton qui va mettre à l'aise votre personne pour encourager. On ne sait pas, madar il le shaitan. On ne sait pas comment est-ce que shaitan peut nous induire en erreur. Ça peut être par un regard, ça peut être par un échange, ça peut être par parfois notre faiblesse, c'est dans la voix qu'on écoute. On ne sait pas. D'accord ? Quand une personne écoute, Allah nous protège, quand on écoute une chanson, une femme qui chante et qui a une très belle voix, le cœur est penche pour cette personne. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. C'est pour ça que le message qui est adressé pour les fans, pour Prophète, mais également pour Nisa Hadil Umma, c'est d'avoir donc une intonation assez sobre et de rester sérieuse dans les échanges. On avance un peu, on passe quelques pages, et là il y a un ensemble de versets, on va peut-être pas tous les couvrir. Notre jeune Hafez Zakwan les a lus correctement, mashallah. C'est des passages, on va dire, assez complexes, hein, assez difficiles. On est au verset 35 plutôt. Innal muslimina wal muslimat, les musulmans et musulmanes. Wal mu'minina wal mu'minat, croyants et croyantes. Wal qanitina wal qanitat, obéissants et obéissantes. Was sadiqina was sadiqat, loyaux et loyal, endurants et endurante, craignant et craignante. Le verset est assez long, hein, le verset est assez long, mais vous avez remarqué qu'on a des adjectifs au masculin et ensuite au féminin. Dans le Coran, lorsqu'Allah Azzawajal révèle un verset ou légifère à quoi que ce soit, c'est toujours au masculin, mais c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Comme ya ayyuhal ladhina amanu, c'est pour les hommes comme pour les femmes, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ce verset qui est long, hein, qui fait plusieurs lignes, il y a les adjectifs au masculin et au féminin. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il y en a beaucoup, hein, de Muhadith al-Nasai, entre autres également, rapporte, alors on va choisir un des riwayas, celle de Nasai, rapporte que Umm Salama avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Nabi Allah, prophète d'Allah, ma li asma'u rijal yudhkaruna fil Qur'an wa nisa la yudhkarna. » Au prophète d'Allah, on entend uniquement les messieurs qui sont cités dans le Coran. Tous les adjectifs sont au masculin. On n'entend rien pour les femmes. Alors que tout le monde savait que le khitab était lil jami'a, c'était pour tout le monde. Et là, Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, a révélé immédiatement ces versets. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, au masculin ou, et également au féminin. Alors, on va juste on va sélectionner peut-être quelques qualités, hein. Wassadiqina, wassadiqat. Loyaux et loyal. Alors, as-sidq, c'est être véridique, dire la vérité. Et parmi les hadiths qu'on peut, le contraire du fait d'être véridique, c'est dire des mensonges, hein, ou cacher la vérité. Vous savez, le mensonge, c'est affirmer une, c'est donner une fausse information, mais c'est également cacher une information qu'on doit donner. Et donc, parmi les hadiths qui citent les qualités du fait d'être véridique, ça me dit, alaykum bi sidq. Soyez véridique. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Le fait d'être véridique, ça vous mène vers les bonnes œuvres, vers la fermeté dans les bonnes actions. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et le cumul des bonnes œuvres vous emmène vers le paradis. Wa yakum al-kadhib. Et attention au mensonge. Ikhwani fillah, le mensonge, ça perd des choses. Un mu'min ne doit pas mentir. Fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Le mensonge amène vers les péchés, l'excès de péché. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Les péchés amènent vers l'enfer. Wa la yazalu ar-rajulu. Et lorsque l'homme, jusqu'à la fin du hadith, lorsqu'un homme prend l'habitude de dire la vérité, lorsqu'un homme ou une femme, on a bien compris, hein, lorsqu'un croyant ou une croyante prend l'habitude de dire la vérité, Allah Azza wa Jalla l'inscrit parmi les siddiq. Alors que wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib, lorsqu'une personne ment et s'habitue à mentir, hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba, qu'Allah nous protège, la personne qui ment, qui continue à mentir, est inscrite auprès d'Allah parmi les grands menteurs, les kadhab, et qu'Allah nous protège. Et vous savez, très souvent, un mensonge entraîne un autre mensonge. Quand vous ouvrez la porte au mensonge, vous essayez de cacher quelque chose à une personne, au fur et à mesure que la personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le pire, c'est l'épouse. Alors, madame, elle, c'est très clair. Elle connaît parfaitement les... Elle fait un profil psychologique. Elle dit, tu es revenu un petit peu tard ce soir de la mosquée. La personne est restée parler avec ses amis, blablabla, et raconte des histoires où... Il dit que non, j'étais resté avec le cheikh ou le fundi, on a appris telle chose. Je dis, ah bon ? Déjà, il ment. Ben, vous avez appris quoi ce soir ? Ah, ce soir ! Ah, ce soir, c'était des VSC vraiment bien. Hein. Il dit, par exemple, fais-moi profiter. Là, il va devoir ajouter mensonge sur mensonge, inventer que oui, le cheikh a parlé de tel VSC. Il a dit quoi ? Il va même peut-être inventer des tafsirs. Dire que, et ensuite, quand tu as quitté la masjid, tu es rentré directement, il a dit, oui, mais tel avait besoin de moi pour l'aider et tout. Mensonge sur mensonge. Le premier mensonge va entraîner un cumul et un amas de kadhib. Donc, ikhwan fillah, la personne qui prend l'habitude de mentir et qui se complaît à un moment donné, on finit par s'habituer. On finit par devenir des menteurs. Hein? Professionnels, exact. Mashallah. Il y a des menteurs qui sont professionnels, qui sont formés. C'est comme si ils ont fait des stages, ils ont fait des formations. On a attrapé un élève ce matin, Ajib. Hein? Cet après-midi, il avait volé le portable d'une fille à l'école, à la madrasa. Et la maman était venue nous voir, très attristée. Ma fille a perdu son portable et tout. Puis j'ai dit, on va voir, on va trouver. Elle dit, on trouve ça, ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, on va trouver. Et j'appelle le grand spécialiste. C'est qui ? C'est Mouali Hamzé. Lui, c'est il ne passe pas avec lui. Lui, c'est Jack Bauer, c'est inspecteur Barnaby, c'est Colombo, c'est je ne sais pas qui encore, X-Files. Il ne passe pas avec lui. Et donc, il a surpris les élèves en train d'échanger des SMS, et il a vu, dans les échanges, même il parlait du portable, j'ai volé, j'ai pris là, on va redonner la serre à la maison. Après, il a dit, il faut avouer. Et subhanallah, quand il fait parler l'élève coupable, il y avait deux personnes qui étaient concernées. L'autre élève est venu, et le voleur, il voulait faire porter le chapeau à l'autre. Vous savez comment il a dit? Il dit, dis-moi, il sait, assume. Alors que c'était lui qui avait volé. Mais Mouliam Zé me dit qu'il a fait d'un ton tellement naturel, d'une façon tellement convaincue, qu'il était impossible, s'il n'avait pas vu le message, de détecter qu'il était en train de mentir. Il a dit, assume, dis-moi, ils savent que c'est toi. Puis l'autre a dit, jamais. Et puis, Mouliam Zé a dit, là, on va appeler la police et tout. Et puis là, ils ont avoué que c'est bon, c'est à ma maison, j'amène ce soir. Pour la salat tarawih, il aurait dû amener. C'est-à-dire que ça, c'est un enfant. Bon, un enfant, ses faiblesses, on connaît. Mais même les adultes, hein, quand on ment, à un moment donné, on devient spécialiste en mensonge. Et j'en connais des gens qui sont loin d'une compétence. Allah musta'an. Et à force de mentir, Allah Rabbul Izzah nous considère parmi les kazzab. Et ça, c'est très grave. Parmi les grands menteurs. Donc, un des nasiha, al-sidr, wa-sabirina, wa-sabirat, les endurants et les endurantes, les patients dans les situations de difficulté. Il n'y a pas moyen de citer tous les hadiths. Un seul, innama sabru, inda sadmatil oula. La patience, c'est dès les premiers moments de la difficulté. Quand une personne est atteinte dans dans ses proches, de sa famille, dans son travail, dans sa santé ou autre chose. La vraie patience, c'est d'être patient dès le début, d'accepter l'épreuve de la part d'Allah dès les premiers instants. Il est plus facile de le dire que de le mettre en pratique. Hein. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, vous connaissez l'histoire, avait vu une femme pleurer sur la tombe de son enfant. Le prophète salam voulait l'encourager et la femme était de dos. Et lorsque le prophète salam a essayé de l'encourager, il dit que laisse-moi en ce sens, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Elle a parlé de façon irrespectueuse. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé. Il a compris que c'était là l'émotion. Et ensuite, on a informé cette femme que l'homme qui était en train de qui essayait de te consoler, c'était le prophète sallam. Et là, elle a compris son erreur. Les parents, tu vois, le prophète sallam, elle a présenté ses excuses. Est-ce que le prophète s'est vengé ou il a fait des reproches? Non, le prophète n'était pas ce genre de personne qui voulait absolument, voilà, il faut me respecter, c'est pas, abadan. Permets-moi une parenthèse. Il y avait un hadith qu'on a lu il y a quelques jours, subhanallah. On a lu une fois de façon furtive, on montrait que, oui, c'était lorsque les woufous, les délégations étaient venues voir le prophète sallam, c'était après Moustalik, ou je ne sais pas quelle campagne, ça ne me revient pas, et il y avait un chef de tribu qui était hautain et orgueilleux. Et qu'est-ce qui a perdu tous les Arabes qui ont été perdus, qui ont été dans le Dalala, et toutes les personnes avec le peuple de Nuh et les Ambiens, c'était la fierté et l'orgueil. Cet homme-là voulait Ar-Ri'asa, il voulait être le chef. Et il ne voulait pas aller faire le bay'a avec le prophète, alors que tous les chefs de tribu, c'était le Sanatul Wufud. C'était en quelle année ça, subhanallah? Je crois que c'était après Hudaybiyah, hein, à vérifier. Les délégations venaient voir le prophète, les villages, les tribus, et ils faisaient bay'a et ils acceptaient l'islam. Cet homme-là ne voulait pas. Et donc, il a dit à son compagnon que j'avais fait la promesse, je m'étais juré qu'un jour, ce sera moi le chef de toutes les tribus arabes. Et là, on vient me demander de faire bay'a avec cette personne de Banu Hashim qui est jeune, qui est nouveau, qu'on ne connaît pas et tout, hors de question. Et le prophète était avec des gens qui étaient en train d'apprendre la religion, des chefs de tribu, donc des gens importants quand même, d'accord, qui ont un certain rang respecté auprès de leur qaum. Et cet homme-là, son nom ne revient pas, on vous dira Inch'Allah, il voit le prophète de loin et dit, viens, j'ai besoin de parler avec toi. Déjà, c'est pas respectueux. C'est comme si que là, je suis dans l'assemblée, quelqu'un vient et dit que, viens, j'ai besoin de te parler en privé. Il dit, attends, respecte au moins les gens qui sont là. Ça ne se fait pas. Le prophète m'a dit, après. Il dit, assieds-toi et profite. Viens. Oui, il a dit que, tant que tu ne dis pas la ilaha illallah Muhammad al-Rasul, je ne te suis pas. Pour l'encourager à lire le shahadat al-tawhid. Personne dit, non, viens que je te parle en privé. Le prophète a donné la même réponse. Et à la troisième fois, si je ne me trompe pas, la troisième fois, là, le prophète a décidé de le suivre. Ça montre l'humilité. Ça montre l'humilité. Quand vous avez un rang de la société, d'accord, vous êtes respecté, vous êtes le supérieur, entre guillemets. Et une personne qui est, entre guillemets, hein, inférieure hiérarchiquement, il vous dit, viens, m'abuser à cause écho. Tiens, ça se fait pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Imaginez, vous êtes directeur d'un établissement, un professeur vient là, dit, directeur, le professeur t'appelle pour te parler. Il dit, non. Logiquement, ça se passe pas comme ça. D'accord? Le chef de service n'est pas appelé par, d'accord? C'est les personnes qui vont le voir. Ça marche comme ça, dans notre logique humaine, dans notre izza, notre honneur, dans notre appréciation de notre propre personne. Mais le prophète montre que, bon, la personne veut vraiment me parler, il cherche à la guider. Il s'est levé, il est parti le voir. Là, la personne a un discours vraiment inacceptable. Elle dit que j'accepte l'islam si tu me donnes la possibilité de gérer. Tu gères ma cam, moi je gère tout autour. Elle dit que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une question de gestion. Elle dit que, bon, autre promesse, tu ne veux pas ça, à ta mort, c'est moi le chef. Oui, c'était quoi son but? C'était un grand malade. C'était un grand malade. Et là, le prophète m'a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Là, la personne était tellement énervée qu'il a quitté la Masjid Nabawi avec des menaces. Et il a dit que je vais amener mes chameaux, mes chamelles, mes chevaux, et ainsi de suite. On va vous écraser. Et il est parti en colère. Et donc, il a manqué de respect, le prophète sallam. Et au retour, lorsqu'il s'approchait de sa tribu, dans le désert, on est dans le désert, hein, Mandel était épuisé par le voyage, et il s'est arrêté, il y avait une tente, où il y avait une femme de mauvaise vie, vous avez compris, une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation, et mais il n'avait pas d'autre choix, il avait besoin de boire, il avait besoin de se reposer. Il est parti voir, et ceux qui allaient dans cet endroit, ben, vous savez c'était pourquoi, et c'était un déshonneur. Il ne voulait pas trop rentrer dans cette tente pour pas que les gens aient mauvaises pensées sur le chef, mais il n'avait pas le choix. Lorsqu'il se repose dans cette tente, il ressent une boule au niveau de sa gorge, On peut traduire par une tumeur, d'accord? Il dit que c'est une maladie qui touche les chameaux, en général. Lorsque le chameau a une boule comme ça au niveau de sa gorge, c'est pas qu'il est angoissé, hein, c'est une maladie et qui tue le chameau en quelques jours. Et c'était presque un déshonneur de mourir. Il voulait mourir sur le champ de bataille en montrant son courage et il n'arrêtait pas de répéter, moi, et j'ai pu son en-tête, mourir dans la tente de Fulana, cette femme qui est une fausse située, et de la maladie des chameaux, quel déshonneur. Il n'arrêtait pas de répéter jusqu'à sa mort. Bref, pourquoi l'histoire nous a interpellés. Vous voyez, hein, quand les gens déclarent la guerre à Allah et à son prophète, ben, il n'a même pas eu le temps de prendre son épée. Il était terrassé par la maladie, c'est le chemin de retour. Et il n'a même pas eu le temps d'aller voir son peuple préparer une armée du tout. Il était terrassé par une maladie. Une mort qui n'a rien d'une mort noble, qui n'a rien d'une mort valeureuse, et en plus dans le pire des endroits. Donc on voit l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il n'était pas, qu'il n'exigeait pas, il n'avait pas d'exigence par rapport à ce... Une fois il y avait un bédouin qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui rembourse l'argent, par exemple, il va emprunter de l'argent, mais c'était pour aider les sahaba, mais le délai n'était pas arrivé encore. Cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a tiré par son manteau. Tiré tellement fort, si je fais ça, ça t'énerve? Si je fais ça, non, on va pas abuser quand même. Non, c'est énervant, quelqu'un il vient voir, il fait comme ça. Moi, des trucs comme ça, moi je finis sa race, moi, ça ne se fait pas. Parce que bon, après on est un peu maniaque et tout. Déjà, on n'aime pas que les gens, ils viennent te toucher. Hey, non, tu as besoin de parler, parle. Pas toucher, ça c'est des trucs qu'on ne supporte pas des fois. Mais là, c'est Nabiullah et cet homme vient, il le tire par son manteau. Il a tiré tellement fort qu'il y avait une trace sur le cou du prophète. Les sahabas n'en pouvaient plus. Le prophète m'a dit, laissez-le. Tu es venu pourquoi? Pour le remboursement de la dette. Le délai n'est pas, on n'a pas couvert l'échéance encore. Mais c'est pas grave. Il est parti voir le sahaba qui avait les moyens et qui a remboursé. Il a montré c'est quoi le noble comportement. Donc, la patience, c'est, je sais pas pourquoi on est arrivé aussi loin. La patience, c'est dans les épreuves, dans les difficultés, s'en remettre à Allah immédiatement, ne pas laisser les émotions nous envahir. Mais on peut dire que la patience est également face au comportement des personnes qui sont ignorantes ou qui ont peu d'éducation ou qui ont un comportement qui nous dérange. Là aussi, savoir rester patient. On va s'arrêter à l'inchallah. Allez, dernier point, wassa imin, wassa imat. Parce que là, on est en état de jeûne. Comment ils ont traduit wassa imin, wassa imat? Tout simplement, jeûnant et jeûnante. Et là, il y a un hadith qui est intéressant, qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, pourtant, qui est rapporté par Ibn Majah, hadith Abu Huraira, de Kapwa Sam dit, as-sawmu zakatul badani. C'est quoi zakat? Zakat, c'est ce qui purifie. Le jeûne, c'est ce qui purifie le corps. Aytuzakihi, watutahiruhu, watunakihi minal akhlaq al-radi'a. Et c'est-à-dire que le jeûne purifie le corps de tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, en termes de mauvais comportement, la colère, les mauvaises pensées, les mauvaises pulsions, ainsi de suite. Ben, c'est un ni'ma qu'Allah donne la possibilité de jeûner 30 jours, et de cette façon, de nous purifier intérieurement de tout ce qui est mauvais. On va t'offrir illa billah. Demain c'est jeudi, c'est demain, si je ne me trompe pas, que les mu'atakifin s'installent, oui ou non? D'accord, c'est demain. Quelqu'un fait l'itikaf ici? Non, il y a, qui ça? Vous faites, je crois qu'il y a 3 ou 4, donc ça il faut voir avec les responsables. Donc demain, Mouana Sajid va faire un programme sur l'itikaf. Je pense que ce sera profitable, les conseils, les ahkam bien sûr, les règles de jurisprudence, mais également les conseils et les règles d'éthique également dans... À propos du itikaf, ça se fera comme maintenant, après la salat de Taraweh. Faites passer le message. Si vous avez des amis qui font l'itikaf, ben, Mouana Sajid va faire donc un programme à ce sujet. Et quand on voit les box qui s'installent, là on sait que le compte à rebours a commencé, que le Ramadan est en train de se terminer, mais qu'il ne nous file pas entre les doigts. D'accord? C'est pas que voilà, c'est presque terminé. C'est-à-dire que non, au contraire, là, il reste les 10 meilleurs jours du Ramadan. Mais il faut, mashallah, augmenter encore notre degré, notre niveau de ibad. Subhan rabbika. Rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.